La plupart d'entre vous, vous avez reçu le texte biblique dont je m'inspire pour la prédication de ce soir. Et il se trouve dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Il y a 7 versets et c'est un épisode où Jésus intervient miraculeusement. Mon thème de ce soir, c'est l'art de la délivrance selon Jésus. L'art de la délivrance. Alors si jamais vous pouvez relire le texte, ceux qui n'ont pas lu la référence, qui n'ont pas pu le lire avant, je prendrai juste quelques versets, je ne vais pas le lire dans l'intégralité. Donc l'art de la délivrance selon Jésus. Vous voyez, en lisant ce texte, eh bien, je me suis dit, Jésus, c'est extraordinaire comment il fait. Je suis intéressé par le mode opératoire, bien sûr, et ce que le texte dit, mais comment il prie, il bénit cette femme qui va vivre une délivrance et une guérison en même temps. Juste dire que le récit, donc cette femme qui est dans une synagogue, que Jésus voit, qui est là, elle est handicapée, eh bien ce récit, il est unique à l'évangile de Luc, qui du reste a beaucoup de récits de guérison. Dans l'évangile de Luc, donc si vous souhaitez voir comment Jésus guérit, qui il guérit, plongez-vous dans Luc, c'est toujours très intéressant de voir le nombre de guérisons, de délivrances. C'est un texte qui est très intéressant parce qu'on ne sait pas trop guérison, délivrance, où ça se situe quand on voit le texte. C'est en même temps une guérison, c'est en même temps une délivrance. Et quand on parle dans la Bible de délivrance, il s'agit de libération d'un lien, un lien qui est fait par un esprit mauvais, un démon. Et Jésus l'atteste en disant cela, parce que tout à l'heure, enfin à la fin du texte, il dit « cette fille d'Abraham que Satan tenait liée ». Donc il y a un lien, c'est Satan qui tenait cette femme dans son handicap, et Jésus, par sa parole, délivre cette femme. Donc il y avait un lien démoniaque là, et un esprit mauvais. Bien sûr, ce n'est pas Satan lui-même en personne qui tenait cette femme, mais il délègue son autorité dans le royaume des ténèbres. Il y a une délégation d'autorité. Si un esprit mauvais peut agir, eh bien il le fait sur délégation de Satan. Je ne veux pas le glorifier ce soir, mais on peut quand même parler de lui, de l'adversaire de nos âmes. Donc loin de moi de l'élever, de lui dire qu'il a beaucoup de puissance et puis que Jésus n'est pas très fort, pas du tout. Parce que Satan, il reste une créature. Et donc il n'est pas éternel, Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Mais à un moment donné, Satan, il a commencé sa vie. Quelque part comme nous, nous sommes des créatures, on n'est pas infini comme Dieu est éternel. On a une âme qui vit la vie éternelle, mais on n'est pas, à un moment donné, vous êtes né, vous et moi, on est né à une date précise, on n'est pas là de toute éternité, contrairement à notre Dieu. Donc, rabaissons un peu les choses au juste niveau. C'est pour ça que Jésus n'a jamais eu peur de Satan. Peut-être que vous avez dit en vous-même, mais moi j'ai peur du monde des ténèbres, des esprits mauvais. J'ai vu un ou plusieurs films qui c'était catégorie horreur, donc ça me fait flipper, donc je ne touche pas à ça. Mais j'aimerais juste dire, n'ayons pas peur de Satan. N'ayons pas peur des esprits mauvais. Alors oui, ils tourmentent, ils sèment la souffrance quand ils le peuvent, mais ils ont une action qui est limitée, et le croyant en Jésus-Christ a une pleine autorité contre contre tous les esprits mauvais, tous. Et regardez pour cela à Jésus. Et lorsqu'on prie pour quelqu'un qui a un besoin de délivrance, on prie au nom de Jésus. Et donc, il n'y a pas à avoir peur des esprits mauvais. Il n'y a pas à avoir peur de tout ce monde spirituel alors que vous êtes en Christ. Et il faut être en Christ, bien sûr, pour cela. Et si ce soir, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas trop tard pour venir à Jésus. J'ai été très touché par le témoignage dimanche dernier de Marie-Claude, je te le dis encore une fois, ce beau témoignage où on peut dire comme cela que voilà, le témoignage était rendu à la gloire de Dieu, que oui, Marie-Claude a été arrachée des ténèbres. Tout ça pour nous dire que Jésus délivre encore, et il le fait puissamment, et encore une fois, aucun esprit mauvais n'est inatteignable. N'est pas chassable, c'est peut-être pas français, mais pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia, hein? Merci Seigneur. Et ceux qui n'étaient pas là, venez parler avec Marie-Claude. Il y a des choses à dire, ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Oui, le Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure, le Seigneur fait grâce. Chaque jour est un jour de grâce. Et c'est un jour de grâce pour cette femme, un cadeau qu'elle va vivre de la part du Seigneur. Et depuis 2000 ans à peu près, son témoignage, ce qu'elle a vécu, est dans nos Bibles. Merci Seigneur pour cela. Luc a écrit son histoire, peut-être l'a-t-il côtoyé, l'auteur de cet évangile, puisqu'il y a une précision qui est là, où l'évangéliste nous dit qu'elle était infirme depuis 18 ans. Et c'est un détail qui est là, qui montre qu'il est allé chercher l'information. C'est pas seulement, voilà, Jésus un jour a fait ceci, cela sur une femme. Non, il y a un détail qui est là, et que j'aime, qui souligne cette proximité. On est, entre guillemets, un dimanche, il y a foule à la synagogue, puisque celui qui est l'orateur du jour, c'est Jésus lui-même, qui est dans une phase là où il a beaucoup de célébrité. Les gens sont très enthousiasmés par Jésus parce qu'il fait des miracles, parce qu'il est peut-être le prophète que le peuple juif attend. On lui pose la question, « Es-tu le prophète ?» Parce que dans le monde juif de l'époque, il y a cette attente, il y a toujours, du prophète qui doit venir dans les derniers temps. Alors il se pose la question. Il y a foule dans cette synagogue qui est là. Si je me rappelle bien, pour avoir visité une synagogue, hommes et femmes sont séparés. C'est un petit détail qui a son importance, puisque Jésus, il va voir cette une femme qui est là, et même il va lui imposer les mains. Donc il casse un peu les tabous, là, il casse un peu la rigidité de certains lieux. Et il faut du courage, mais Jésus est un homme audacieux et courageux, il n'a jamais eu peur de démontrer son amour et sa compassion. Voilà, imaginez que homme à gauche et femme à droite, donc le contraire pour vous. Et voilà, Jésus qui est un homme, bah, il franchit la barrière invisible, mais bien réelle quand même, et il le fait. Alors que Jésus enseigne, les gens écoutent, il y a une dame qui est là, sur laquelle, il pose son regard. Certainement que tout le monde l'a vu, cette femme. Vous savez, c'est ce genre de personnes, quand on marche dans la rue, on les voit, ces personnes-là qui sont courbées sur elles-mêmes, qui ont un problème de colonne vertébrale, d'ossature, et puis ils ne peuvent voir que leurs pieds, ou pas beaucoup devant. On a tous croisé des personnes comme ça, qui marchent difficilement. Est-ce qu'elle est âgée? Est-ce qu'elle est jeune? On ne sait pas, mais on peut l'imaginer jeune. La maladie que j'ai eue, la spondylarthrite, en général, se déclenche chez des jeunes, chez des 18 ans. Dieu m'a fait grâce de l'avoir seulement à 52 ans. Donc, il m'a fait grâce pendant 30 ans, un peu plus. Mais voilà. Et est-ce qu'elle est jeune? Peut-être, je me plais à l'imaginer, mais peu importe, c'est pas le plus important. Jésus voit cette femme, et la seule vue de cette femme lui montre la souffrance et suscite en notre Sauveur sa compassion. Ce soir, j'ai eu plaisir à chanter, à écouter ce verset que Anne nous a dit. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. Elle n'est pas épuisée. On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, ta bonté, elle s'arrête là aujourd'hui. C'est terminé, la ligne rouge est là. Non, parce que le Seigneur, il nous dit, mais tu vois une limite, mais alors que ma bonté est infinie. Je repousse cette limite. Je la repousse à tes yeux. La bonté est grande, donc Jésus est ému face à la souffrance et à la compassion. Et vous savez, je me disais en préparant ce texte, ce message ce soir, je me suis dit, je pense qu'il y a beaucoup de croyants qui ressentent la compassion du Seigneur. Peut-être qu'ils ne prient pas pour les malades, ils ne prient pas pour la délivrance encore, mais la compassion du Seigneur, je crois qu'elle fait partie du peuple de Dieu et elle est là quand quelqu'un vit une souffrance, on compatit, on essaye de se mettre à sa place. Et c'est ça, peut-être, un premier miracle. Peut-être tu te dis, mais moi, je ne prie pas pour les malades, je n'ai pas assez cette foi-là, et je vois d'autres qui le font. OK, c'est une chose, mais la compassion du Seigneur, elle est tout aussi importante. Et le fait d'écouter quelqu'un qui souffre et d'avoir un regard de compassion qui vibre en nous, c'est déjà quelque chose. C'est peut-être un petit miracle. C'est peut-être la porte qui va s'ouvrir. Et tu as de la compassion pour les gens quand tu te dis, par exemple, dans ce temps de louange ce soir, ah, mais si seulement mon ami, ma famille, mon collègue était là ce soir, il pourrait aussi ressentir la présence de Dieu. Donc il y a mi-frustration, mi-compassion. Mais c'est ça aussi le début de la vie miraculeuse de Dieu. Elle est tellement importante pour Jésus, cette compassion, c'est son moteur en fait. Il a chaque fois béni et délivré jusqu'à point d'heure de la nuit, de la soirée, parce qu'il était compatissant face à des gens qui étaient en souffrance. Ce sentiment-là, tu peux le ressentir, et je crois qu'il faut aussi prier, bien sûr, qu'il grandisse encore en nous, et il nous fera passer peut-être des barrières de crainte, et on pourra dire « Ah, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose pour ta situation ». Je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose pour ta situation. Je connais quelqu'un et je vais prier pour toi. Ce regard du Seigneur, il y a un échange avec cette dame-là, je pense. Il a dû baisser la tête. Jésus, il y a un échange qui est là. Parce qu'il voit que cette femme, non seulement elle est malade, mais elle a la foi. Il l'appelle fille d'Abraham. Cette fille d'Abraham, quand il y a un échange après avec le chef de la synagogue. Et cette expression, elle est géniale, elle est unique dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si elle existe dans l'Ancien Testament, je n'ai pas regardé. Cette fille d'Abraham, ça veut dire que c'est une femme qui est pleine de foi. Elle est pleine de foi. Et peut-être qu'elle pose question à certains dans cette synagogue qui pensent que toute maladie, toute oppression, toute situation pénible est due à un manque de foi. Est dû peut-être à un péché qu'elle a commis. C'est la mentalité de l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on pense ça. On est d'accord ou bien ? On est d'accord ou bien ? Hein ? Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas juger sur l'apparence. En tout cas, Jésus ne le fait pas parce qu'il a un discernement intérieur. Cette fille d'Abraham, donc connexion de foi, Jésus enseigne, il la voit. Et là, il se met en contact spirituel, on peut dire ça comme ça, avec elle. Ah ! Cette fille d'Abraham, elle a la foi. 18 ans, elle a eu ce mal pendant 18 ans. Moi, j'imagine une foi quand même qui a dû être chancelante. Tenir bon pendant 18 ans, si vous avez une maladie là, qui dure 18 ans de galère. Peut-être plus, peut-être il y a des situations plus difficiles ce soir encore. Mais cette femme-là, elle a nourri sa foi. Il l'appelle fille d'Abraham. Qu'est-ce que ça a dû l'encourager, cette femme ? Ça a dû lui dire, mais il m'appelle fille d'Abraham, le fils de Dieu. C'est extraordinaire. J'ai une foi qui est vivante. Mais j'imagine cette foi qui a dû être très éprouvée par ce handicap qu'elle avait. Voilà. Mais elle reçoit cette parole de Jésus. Quelle est donc cette parole de Jésus ? Quelques mots, mais une parole puissante. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il y a un temps qui est utilisé dans la langue du Nouveau Testament ici, qui je ne sais pas si les profs vous allez me dire, qui est équivalent en français, mais je ne suis pas sûr. C'est un temps qui est parfait, c'est le nom de ce temps-là, je retrouve mes notes, où Jésus est en train de lui dire, pas seulement je te guéris, je te délivre de ton infirmité, mais il lui dit, ta guérison est déjà accomplie, ainsi que la permanence de ta guérison, de cette guérison. Donc quand Jésus prononce cette parole, c'est pas seulement voilà, je te bénis et je te guéris, mais c'est déjà accompli. Et en plus, cette guérison, elle va être permanente. Tu n'as pas besoin de douter. Et c'est le temps qui ne ressort pas dans une première lecture en français qui est là. Et je crois qu'à chaque fois que Jésus prononce une parole à travers un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, parole d'autorité, qu'il y a un démon ou pas, qu'il y a une maladie ou, d'origine spirituelle ou pas, eh bien c'est la même qualité de parole qui est là. Et lorsque toi tu prononces et que tu pries pour les malades, ces paroles-là, c'est la même intensité qui est dans ta bouche que celle qui était dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus. C'est la même chose. Alors connecte ta foi à celle de Jésus et ça va se produire. Une simple phrase, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Sept mots tellement efficaces. Et il pose les mains sur elle. Et ça, j'aime beaucoup. Pourquoi, Seigneur Jésus, t'as posé les mains sur elle vu qu'elle était guérie et délivrée ? Finalement, il n'avait pas eu besoin. Il n'avait pas eu besoin. Ça suffisait une parole à distance avec la puissance du Seigneur Jésus. Mais je crois que dans cette imposition des mains, il entre en communication avec elle. Il rend son cœur calme et confiant. Parce qu'elle est tout d'un coup la cible quand même. Je ne sais pas si vous aimez être aux premières loges, peut-être, mais là, elle devient la cible, cette femme. Elle est guérie. La foule est ébahie, nous dit le texte plus loin. eh bien, il entre en communication avec elle, il rend son cœur calme, confiant. Ta douleur de 18 ans, c'est terminé maintenant. Et confiance, c'est terminé, c'est du passé. Et je pense aussi qu'il fortifie sa volonté qui est fragilisée. Elle a peut-être une volonté qui est là, mais fragilisée par cette maladie, comme ceux qui sont dans la peine, qui peuvent être éprouvés dans leur foi. Alors j'aime beaucoup ce geste du Seigneur Jésus, qu'il le fait toujours aujourd'hui. Il pose ses mains, peut-être qu'il lui dit à l'oreille, ne crains pas, tu vas rester droite toute ta vie, jusqu'à ton dernier jour, c'est bon, tu es délivré de cette infirmité. Quelle reconnaissance éclatante devant tout le monde. Jésus est là, il manifeste sa puissance, et puis il affie des protocoles, et il va de l'avant. Immédiatement, cette femme, elle remercie et elle glorifie Dieu. Voilà, sans plus attendre, elle se met à faire un moment de louange, elle célèbre Dieu. Ben, à sa place, peut-être qu'on ferait la même chose, en tout cas, je l'espère. Et le texte, comme vous l'avez pu le lire, ne s'arrête pas là. Le chef de la synagogue se lève, et ce qui n'apparaît pas non plus dans le texte français, mais qui est dans le grec ici ancien, c'est qu'il commence à faire un discours. Et il commence à faire un discours, et le texte, le mot qui est écrit là, qui sous-tend un discours prolongé. Donc, entrée, plat, dessert, quoi. Donc, il commence à faire ça, le discours. Ben oui, il faut qu'il soit quand même le chef, quoi. Il faut qu'il montre que dans un culte de Shabbat, il y a un ordre à respecter. Et c'était pas prévu, la guérison, là. C'était pas dans le protocole de ce jour-là. Donc, discours prolongé qui commence, mais vous l'avez lu comme moi, le discours est empreint d'un légalisme, peut-être d'un agacement, parce qu'il voit le Seigneur Jésus qui fait quelque chose d'inhabituel. Mais il ne faut pas trop vite le condamner, parce que ce que fait ce chef, c'est qu'il reconnaît quand même que Jésus, il guérit. Et il dit, il y a 6 jours pour vous faire guérir, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se faire guérir, donc voilà, il insiste sur le règlement carré comme ça. Mais il reconnaît quand même que Jésus est là. Mais il a quand même la frousse parce qu'il parle à la foule et il ne parle pas à Jésus. Il aurait pu dire à Jésus, écoute, ce n'est pas le bon moment de guérir les gens. Et puis évidemment, le Seigneur, il a l'art de la réplique puisque le texte nous dit ici, verset 15, « Le Seigneur lui répondit et à chaque fois que Luc l'évangéliste écrit « Le Seigneur », en fait, ça montre une autorité. C'est toujours lié à une guérison ou à un jugement qu'il va prononcer. Sinon, il parle de Jésus. Alors, c'est intéressant. Voilà. Le Seigneur dit une parole. Qu'est-ce qu'il dit ? Hypocrite ! Donc, voilà, vous êtes tous des hypocrites. Enfin, pas ceux qui sont du côté de Jésus, bien sûr. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire ? En fait, ce qu'il est en train de dire, là, ok, il y a un règlement, il y a le Shabbat qui est là, mais peut-être, toi, chef, juste avant la célébration, tu as fait ce que tu interdis aux autres. Tu as amené ton bœuf, ton âne, pour qu'il aille boire, sinon il allait y passer. Donc peut-être tu as fait ça, donc tu es super cool envers toi-même et envers les autres. Donc hypocrite, c'est pour ça qu'il dit hypocrite, hein, Jésus, parce qu'il n'y a pas vraiment d'hypocrisie dans ce qui s'est passé. Mais voilà, tu as fait juste avant ce que tu interdis aux autres. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Voilà, on est des fois tous un peu comme ça. Hein. Enfin, bon, voilà. Pas les jeunes, mais ceux qui ont de la bouteille. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, Jésus. C'est comme si, moi, je vous disais, le dimanche, c'est interdit de faire le plein d'essence. Interdit. Vous allez que pour Dieu. Et voilà, on loue Dieu. Puis juste avant, j'ai fait mon plein de benzine à la station, quoi. Donc, hypocrite que je suis. Donc, dimanche prochain, interdit de... Non. Voilà, mais c'est ce que Jésus dénonce, l'hypocrisie. Et le texte, là aussi, c'est à souligner. Jésus continue et dit, « Cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Pour lui, c'était une évidence. C'était le moment de la délivrance, cette femme. Voilà, fille d'Abraham. Vous voyez ce que ça veut dire. Satan tenait lié, j'en ai parlé tout à l'heure. Juste pour dire, en fait, par rapport à Satan, là aussi, rééquilibrons les choses par rapport aux esprits mauvais. Que peut faire un esprit ? Alors, peut-être il a du pouvoir, ils ont des pouvoirs différents suivant les uns les autres, mais En fait, le texte ici mentionne que c'est comme si un esprit mauvais il tenait par la main cette personne-là. Et impossible de s'en défaire. Impossible de lâcher, quoi. Elle a certainement supplié Dieu. Ça me fait penser un peu aux menottes, quand la police va menotter quelqu'un et il l'attache à un autre policier, ou si vous avez une mallette pleine de billets de banque, vous l'attachez à vous-même. Voilà, c'est un peu ça. C'est le terme qui est utilisé. Donc, elle était pliée en deux à cause de ce handicap dû à un esprit mauvais. Et j'ai l'impression, mais ça c'est un sentiment personnel, que Satan, que tu sois chrétien ou pas, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est tenir liés les gens, maintenir dans une captivité. Et bien sûr, s'il peut avoir un enfant de Dieu, il ne va pas se priver, on est d'accord. Mais voilà, et voilà, il agit de manière désordonnée, cherchant à piétiner, à écraser ce rôle. Jésus parle de Satan en disant « Il vient pour voler, tuer et détruire ». Voilà quelque part le mandat qu'il s'est approprié. Satan vient pour voler peut-être ta foi, voler voilà, des choses que tu croyais avant, qui maintenant que c'était plus difficile. Il vient pour tuer, égorger aussi, c'est le même mot. Voilà peut-être ce qu'il fallait dire de notre ennemi. Jésus et sa compassion, plein de compassion pour toi, pour moi. Jésus a une parole puissante et pleine de foi. Jésus impose les mains. Et je ne sais pas à quel moment, mais ce n'est pas très important, l'esprit mauvais est parti. Mais il est parti, on a l'impression, tout tranquillement. Tout tranquillement. Il y a des autres passages, un esprit mauvais essaye d'hurler. Jésus le fait taire. Tais-toi et sors de cet homme, par exemple. Et puis là, on a l'impression, peut-être que cette femme était à prendre avec plus de douceur, mais en tout cas, l'esprit mauvais, il quitte cette femme et elle est guérie tout de suite. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « L'art de la délivrance ». J'ai l'impression que c'est une délivrance toute en douceur, une guérison discrète mais efficace de notre Seigneur. Et c'est beau, c'est magnifique. Et un pasteur nous avait raconté à l'école biblique, il y avait une dame qui avait peur. Elle savait qu'elle avait besoin de délivrance, mais elle avait peur des esprits mauvais dans son église. Et puis le pasteur va la visiter, va la voir, et puis il lui dit comme ça, « Ah, vous savez, on a un Seigneur tellement merveilleux, il peut faire des délivrances en douceur. » C'était un pasteur vaudois, il a bien l'accent vaudois. Je ne sais pas le faire, il faudrait demander à Yvalin. On a un Seigneur tellement merveilleux. Et puis il a prié tout doucement pour cette femme, et il y a une chose qui s'est passée, il y a la porte qui s'est ouverte de la pièce, ou la fenêtre, je ne sais plus, porte je crois, elle s'ouvre et elle se referme. Voilà, et elle était délivrée. Donc en plus, elle a eu un signe devant elle, et elle a été délivrée. Oui, délivrance peut aussi être synonyme de douceur, mais néanmoins de puissance. Voilà, ça je pense que c'est une chose qu'il fallait souligner. J'aime prier pour que les personnes soient délivrées, soient guéries, et que le Seigneur agisse. Mais il me faut le faire, et il nous faut le faire, bien sûr, à l'écoute du Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire fi, et je termine gentiment ma prédication avec ça, du don de discernement des esprits. Qu'est-ce que le discernement des esprits? Ça permet de savoir s'il y a un esprit mauvais derrière une infirmité, une maladie qui est là. À ce moment-là, on sait comment il faut opérer. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ou ça peut être aussi une maladie voilà, physique, tout simplement, sans action des ténèbres, maladie donc, voilà, qu'il faut aussi chasser au nom de Jésus. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Je ne sais pas, certainement, peut-être. À voir. Dans le Nouveau Testament, il y a quatre endroits, je ne vais pas faire descendre votre foi, mais où les gens ne sont pas guéris. Il y a quatre endroits. Paul, par exemple, il dit « Je suis arrivé dans votre église, j'étais pas bien, j'étais malade, je souffrais dans mon corps. » Et il dit ça. Donc, il n'y a pas eu guérison, comme peut-être, en tout cas à ce moment-là, comme il avait souhaité, et certainement qu'il avait demandé la guérison. Donc voilà, je dis ça pour pas qu'on soit en pression, en disant « Il faut que ce soir je sois absolument guéri, je vais être guéri. » Et puis, si, entre guillemets, rien de visible ne se passerait, vous repartiriez déçu ou fâché contre Dieu. Juste, voilà, il y a ces quatre petits épisodes, donc il y a celui-là, il y a Paul à un endroit qui dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc voilà, pourquoi, on ne sait pas, mais juste j'ai regardé dans, là encore une fois, excusez-moi, le grec, j'ai regardé dedans, et peut-être que ce mot signifie épuisement. Donc qu'il était épuisé, que certainement, voilà, Paul a prié pour lui. On a tous un capital santé, on a tous besoin de dormir 6 à 10 heures par nuit, ça dépend des personnes. On a tous à gérer notre vie, puis voilà, personne n'est à votre place pour le faire. Ben, peut-être que Trophime, il a trop tiré sur la corde, et puis il ne pouvait plus aller de l'avant, quoi. Ça arrive voilà, dans le ministère, dans la vie de... suivant, si on ne fait pas gaffe. Comme disait John Wesley, les réveils s'arrêtent quand le peuple de Dieu ne sait pas se reposer. Voilà. Donc on veut être en forme pour cela. Peut-être c'était son cas, puis il y a deux autres épisodes dont je ne me souviens plus exactement. Seigneur, que veux-tu faire ce soir? Peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Y a-t-il parmi nous un homme, une femme courbée depuis 18 ans? Le Seigneur a compassion. Et on va écouter Gilles et Michel. Alors, dans quel ordre, Gilles, tu veux commencer? Qui est le plus courageux? Voilà, qui ont des choses aussi à partager par rapport à ce thème de l'art de la délivrance.
Merci. Voilà, bonsoir. Bon, bah depuis qu'on a ouvert Espace Guérison, bah il se passe plein de belles choses. Je ne vais pas vous parler trop de ça. Je me disais, il faut vous raconter quelque chose qui peut concerner tout le monde. Déjà que, je voulais vous lire Marc 16, 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. » Donc ça, c'est normal qu'on les chasse. On peut les chasser en chassant des mensonges, en chassant des angoisses, en priant pour quelqu'un. Enfin, il y a mille façons de détacher une personne de quelque chose de mauvais qui l'habite. Donc, quelque part, vous faites déjà tous de la délivrance, soit pour vous-même, soit pour autrui. Il me semble qu'on est déjà des délivreurs. Je vais vous raconter un vieux truc, mais je vais vous parler d'autodélivrance. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous avez les deux côtés de l'histoire. Alors, c'est un petit peu vieux, j'avais 22 ans. J'étais déjà croyant. Je croyais que j'étais un type super spirituel parce que je priais comme ça, j'avais des temps d'adoration. Et puis je commençais à avoir, je ne sais pas si ça vous est arrivé pour certains, une sensation de présence. Et puis une apparition qui venait. Et puis je l'invitais, je croyais que ça venait de Dieu. Alors j'accueille cette présence et tout. Et tout d'un coup, j'entre dans un extase incroyable, des sensations, mais... vous ne pouvez pas imaginer l'extase que j'avais. Et du coup, ben, comme ça me paraissait bien, ça faisait partie, gentiment, ça s'est entré dans ma pratique de prière contemplative, d'avoir justement cette présence que je n'avais même plus besoin d'appeler Jésus, ça venait tout seul. Et puis, j'avais des extases formidables. Je trouvais bizarre que ça ne me rapprochait pas des autres. Parce que vous savez que quand Dieu parle, quand le Saint-Esprit il vous met quelque chose, ça remplit votre cœur d'amour, ça vous rapproche des autres, de la famille. Là, j'ai l'impression de devenir quelqu'un de super spirituel et de bien, mais ça ne me rapprochait pas des autres. Et puis, il y avait un truc qui je trouvais bizarre, c'était que cette présence, je voyais une auréole, je voyais vraiment une présence, mais je ne voyais pas de visage. Et un jour, j'ai dit, si ça vient de Jésus, montre-moi ton visage. Et au lieu de venir comme d'habitude, ça s'est éclipsé très très vite, comme ça. Et puis, un ou deux jours plus tard, j'étais encore étudiant, et je sens une cloche comme de la mort autour de moi, et je sens que tout, c'est très sombre. Même il fait beau dehors, c'est très très sombre. Alors je me dis, c'est bizarre, c'est peut-être le lieu, je ne me sens pas bien, etc. Je vais dehors, au soleil, prendre l'air, et c'est toujours aussi sombre. Du bon, ben alors vraiment, là, il y a quelque chose. Alors j'entre au musée des Beaux-Arts, là, à Genève, puis je me mets dans la section icône, pour ma petite histoire, et je me place devant une icône de Jésus, comme ça. Et puis je dis, au nom de Jésus, tu sors, parce que je savais très bien que c'était une présence. Et là, apparaît étonnamment un visage dégueulasse, alors là j'avais le visage, mais pas le reste, qui me regarde comme ça, et puis qui, en transmission d'esprit, me dit, bah, j'étais bien nu, hein. Et puis il me fait un bisou sur la bouche, comme ça. il traverse ma tête, puis pouf, il part. Et après, tout est redevenu normal. Bon, ça, c'était quelque chose que j'ai vécu comme justement des apparitions, mais aussi pour dire que l'esprit et le corps, il y a un lien entre la sensation, le corps, le physique, et puis le spirituel. Et quand on voit, par exemple, cette femme qui est courbée, c'est physique, mais par contre, c'est un esprit qui la courbe. Moi, j'avais des extases phénoménaux, mais c'était un esprit qui me donnait ça, que je le ressentais dans mon corps. Je fais un lien avec une personne que j'ai rencontrée il y a 2 semaines. On m'a demandé de prêcher à Montpellier. Et puis, à la fin, on a fait une prière pour les malades. Et est venue une personne qui dit, moi, j'entends des voix. J'entends des voix de gens gentils et de gens méchants qui me disent des choses. Et j'aimerais bien que les voix méchantes s'en aillent. Alors bon, on a commencé à prier pour lui. Il a commencé à faire une confession de foi. Il s'est mis à tousser. Bref, il est entré dans un processus. Ça sera long parce que, bien sûr, les promesses de Dieu viennent petit à petit dans l'esprit des gens, souvent. Et tout ça pour dire qu'il y a une connexion entre le physique et le spirituel qui nous échappe. Hein, quand quelqu'un est délivré, des fois, il ne se passe pas grand-chose. Puis voilà, ça va mieux. Des fois, c'est des larmes. Des fois, tu pètes, tu rotes ou je ne sais pas, il y a un truc qui sort. C'est le souffle impur qui sort, mais pas forcément. On a eu pas mal de cas où je me demandais ce qui se passait. Et puis en fait, il se passait des choses, mais moi, je suis juste à côté, je ne vois pas. Je me dis, bah, attends, quand est-ce qu'il va se rouler par terre? Puis en fait, non, rien. Mais la délivrance est OK. Et donc, voilà, c'était pour vous raconter ça. On est tous habilités à pratiquer la délivrance, vu qu'on est tous des croyants. Et je respecterai largement les gens qui me disent, je vois des choses, je ressens des choses, je suis attaqué, j'ai des visions, parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont hospitalisées, enfin, on les hospitalise bien sûr, on les soigne comme on peut, mais c'est aussi des personnes qu'on peut écouter et prendre au sérieux. En tout cas, moi je prends au sérieux quand quelqu'un me dit j'ai des visions, je vois un truc, etc. Voilà. Tu veux.
Donc moi, ce n'est pas des délivrances, moi c'est plutôt des guérisons. Donc jeudi soir, quand je rentrais donc, de la réunion de prière, en chemin, je rencontre une copine que je connais très bien, qui sortait son chien, comme d'habitude, et je la regarde, et elle était complètement raide comme ça. Je suis fait tac, quoi. Elle me fait « Oh, j'ai un torticolis, j'arrive plus à tourner la tête, ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. » Je la regarde, puis je lui fais « Tu serais d'accord que je prie au nom de Jésus pour ta guérison ?» Comme j'y ai déjà prié une fois pour elle, elle m'a fait « Oh oui, d'accord, mais tu t'approches pas de moi parce que tu sais, avec le Covid, c'est mieux que tu t'approches pas de moi. » J'ai dit « Ok, pas de problème, je dis tu te tournes. » Donc j'ai fait la distance, j'ai juste fait comme ça avec la main. J'ai pris autorité sur ses douleurs. J'ai demandé aux muscles, aux tendons, aux ligaments, aux nerfs de se rétablir. Au moment où j'ai fini de prononcer ce mot, elle me fait « Ah !» Puis j'ai fait « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Tu viens de terminer ta phrase ?» J'ai senti une main qui m'a fait « Ah bon, j'ai fait « Tu vas bien ?» Elle me fait « Oui, 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 maintenant ma nuque, regarde, je peux faire en haut, je peux faire en bas, je peux faire sur tous les côtés. » Donc voilà, ça s'appelle une guérison ultra rapide.